Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En pleine crise des hôpitaux en France, il existe un petit hôpital dont on parle assez peu en métropole, mais qui fait régulièrement la une des médias. Cet hôpital, il se situe à 8000 km de Paris, en Guyane. On prend donc dans Priorité Santé la direction de ce département français, seul espace européen situé en Amérique latine. Et si nous sommes administrativement parlant en France, de ce côté de l'Atlantique, eh bien la situation est bien différente de celle vécue en métropole. Illustration avec le centre hospitalier André Rosemont à Cayenne. Là-bas, on dit le char, c'est le principal hôpital du département d'outre-mer. Et au cours du conflit social qui avait agité la Guyane en mars-avril 2017, eh bien, cet hôpital est devenu en quelque sorte le symbole de la décrépitude du système de santé. Il avait cristallisé la colère de la population. Avec la signature des accords de Guyane, c'était le 21 avril 2017, ces accords qui actaient la fin du mouvement social, eh bien, l'État français s'était engagé à verser 40 millions d'euros pour moderniser l'hôpital de Cayenne. Mais depuis, la crise se poursuit et la colère du personnel soignant ne fait que croître. Ainsi, le 3 mai dernier, 17 des 25 médecins urgentistes ont déposé leur démission afin de dénoncer la dégradation du service d'urgence du char. Alors, quelles sont leurs revendications? À quoi ressemblent les conditions de travail dans cet hôpital? Et plus généralement, comment s'organise la santé en Guyane? Igor Strauss est allé à la rencontre des médecins sur place entre Cayenne et Maripasoula, au bord du fleuve Maroni, qui marque la frontière avec le Suriname, l'État voisin. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
16 des 17 médecins démissionnaires sont arrivés au terme de leur préavis de 2 mois, donc après cette fameuse démission, action collective pour dénoncer les conditions d'accueil des patients. Alors Igor, quelle est la situation aujourd'hui au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne?
Eh bien, la situation reste tendue entre les médecins démissionnaires et la direction. Finalement, un accord a été trouvé, mais dans la douleur. La direction de l'hôpital a fait savoir dans un communiqué qu'elle a, je cite, « dans l'intérêt de la population guyanaise et de la sécurité des soins, signé dans des conditions et sous des formes difficilement acceptables, 11 contrats de 2 mois des urgentistes démissionnaires », fermer les guillemets. En gros, les médecins ont donc 2 mois supplémentaires pour évaluer les efforts de l'hôpital. Ils réclament, entre autres, une quinzaine de médecins supplémentaires au service des urgences, qui en compte actuellement 25. Et à l'issue de ces 2 mois, ils réintégreront leur service ou démissionneront.
Alors justement, on va partir pour ces urgences du centre hospitalier André Rosemont, où vous avez rencontré le docteur Chéneau. Il est médecin urgentiste depuis 18 ans dans ce département de la Guyane.
On a des difficultés à l'hôpital de Cayenne aux urgences. C'est une difficulté de recrutement, c'est-à-dire qu'on a eu de nombreux départs en l'espace de 2 ans. On a aussi des difficultés de plateau technique. On a des difficultés pour prendre en charge finalement dans des standards du 21e siècle, la population qui vient aux urgences. On a vu des gens partir les uns après les autres et ceux qui restent se sont dit qu'il était difficile de continuer à partir les uns après les autres et qu'on préférait mettre notre démission tous ensemble de manière à essayer de briser le cercle vicieux dans lequel on était en train de s'enfoncer. En fait, c'est un vrai message d'alerte en disant il y a des choses à faire en Guyane, il y a des choses, mais il faut qu'on ait un soutien, il faut qu'on ait un recrutement, il faut que les gens puissent avoir le temps de monter des projets et il faut que ça suive.
Mais quand vous parlez de recrutement, est-ce que c'est par manque de médecins qui souhaitent venir ici, exercer ici, ou c'est par manque de moyens de l'hôpital?
Alors, on a régulièrement des médecins qui viennent, qui sont intéressés, et parfois, ils viennent même en remplacement, et les derniers temps, ils ne sont pas restés. Donc, il y a un vrai problème sur l'attractivité au sein de l'hôpital. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de missions Et ces missions, on n'est pas toujours suffisamment nombreux pour les remplir. Ces missions, c'est parfois difficile aussi de les remplir quand il n'y a pas le plateau technique. On a par exemple quelqu'un qui vient et qui a saigné dans la tête, qui a une rupture d'anévrisme, eh bien, on va lui faire l'imagerie parce que on a l'imagerie à Cayenne, et puis après, on aura besoin d'un avis spécialisé. Et ça, ça va être compliqué parce qu'actuellement, le système pour envoyer des images n'est pas très performant, parce que il nous faut avoir l'avis d'un spécialiste et que derrière, il va falloir emmener ce patient au plus rapide vers les centres spécialisés, et en l'occurrence, ce sera Paris. Donc, il sera accompagné par une équipe médicale, un médecin, un infirmier, du matériel de réanimation. Et on a un certain nombre de gens comme ça qu'on emmène dans l'année, à peu près 250 dans l'année, deux tiers vers la Martinique et puis un tiers vers Paris. Tout ça, ça complique aussi les plannings, ça complique les prises en charge. Lorsque quelqu'un fait un infarctus, eh bien, on l'emmènera en Martinique au plus rapidement aussi, mais c'est pas toujours le jour même, ça peut être le lendemain, voire le surlendemain. Alors qu'en métropole, on essaye de mettre en place les gens pour avoir une angioplastie dans les heures qui suivent. Donc on a l'impression de devoir travailler dans des conditions un peu difficiles.
Donc vous travaillez dans des conditions, vous, médecin, difficiles, mais en gros, vous êtes à combien d'heures par semaine? Parlez-nous un peu de votre rythme.
Comme on a eu beaucoup de départs, on est à peu près à 60 heures par semaine, ce qui n'est pas tenable sur une longue durée. Et si nous avons fait ce mouvement, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que le planning n'était pas faisable, alors qu'on avait pourtant averti depuis longtemps en disant « Attention, il y a un moment donné, on va arriver vers le point critique ». Et donc là, on y est, on a donc démissionné parce que là, le planning, de toute façon, qu'on reste ou qu'on ne reste pas, n'est pas faisable.
Vous démissionnez, mais c'est une façon de mettre la pression sur l'hôpital en attendant des réponses concrètes, ou vous allez clairement et définitivement démissionner?
Alors les démissions sont réellement effectives, mais néanmoins, on peut revenir sur notre décision si on constate qu'il y a des avancées, s'il y a une prise en compte de ce que nous avons dit. Il a fallu à peu près un mois pour que tout le monde se mette d'accord, direction, ARS, conseil de surveillance, commission médicale d'établissement, pour que tout le monde dise finalement oui, le problème, il existe. Voilà. Alors maintenant qu'on est tous d'accord que le problème est bien réel, il va falloir trouver des solutions. Les solutions, c'est de l'attractivité. L'attractivité, c'est pas des questions financières, c'est des conditions de travail qui permettent de faire du bon travail. C'est-à-dire qu'en Guyane, il y a énormément de choses à faire. On a une population qui est en pleine extension, qui devient de plus en plus nombreuse, et notre système de santé n'est plus adapté à ça. C'est-à-dire que on manque de médecins généralistes et spécialistes en ville. Il n'y a pas assez de médecins libéraux. Les hôpitaux, finalement, n'arrivent pas à prendre en charge l'ensemble des pathologies des gens. Il faut vraiment de l'aide à cette région pour qu'elle puisse se développer.
Mais en fait, tous ces problèmes que vient d'évoquer le docteur Chéneau, Igor Strauss, ils ne datent pas d'hier.
Non, et vous le rappeliez au début de l'émission, Caroline, au cours du conflit social qui avait agité la Guyane en mars-avril 2017, cet hôpital cristallisait déjà la colère de la population. Alors la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a indiqué récemment que les 40 millions d'euros promis lors des accords de Guyane pour moderniser l'hôpital allaient être versés. En attendant, les médecins travaillent dans des conditions difficiles. Le docteur Loïc Eppelboin est médecin infectiologue et chercheur en maladies infectieuses et tropicales.
On a clairement un hôpital qui présente des difficultés, qui présente des dysfonctionnements, et ce qui fait qu'on lutte un peu tous les jours contre les dysfonctionnements. Contre avoir l'échographie en temps et en heure, à récupérer le résultat de telle ou telle chose. Il y a plein d'examens biologiques qu'on ne fait pas ici, qu'on est obligé d'envoyer en métropole. Ça met du temps pour le récupérer. Une des grosses difficultés, c'est qu'on a plein de disciplines qui manquent. On n'a pas de chirurgie vasculaire, on n'a pas ou presque pas de pneumologie, on n'a pas d'hématologue, on en avait un qui est venu un peu, qui est reparti. On n'a pas de cardiologie. Vous savez, le traitement de l'infarctus au jour d'aujourd'hui, l'infarctus du myocarde, c'est de mettre un cathéter et d'aller déboucher l'artère. La cardiologie interventionnelle, on n'en a pas en Guyane.
Comment vous l'expliquez, ça?
On ne sait pas. Il y a eu ces mouvements de mars 2017. On a beaucoup cru qu'il se passerait des choses. Des mouvements sociaux, oui, auxquels la santé a participé. Et les médecins et les membres de l'hôpital de Cayenne et les médecins de Guyane ont beaucoup participé. On y a cru. On a cru qu'on arriverait à avoir des choses. Clairement, la santé en Guyane, on a 50 ans de retard. Et puis finalement, les choses, elles avancent pas beaucoup. Voilà. Faut pas comparer. Mais là, il y a eu une somme qui a été allouée aux hôpitaux des Dom-Tom, annoncée par la ministre il y a quelques jours. Bon, ben, il va y avoir 78 millions pour la Martinique, 39 pour la Guadeloupe et 2,5 pour la Guyane. Donc on essaie de comprendre. Non, on a un peu l'impression, un peu comme nos copains de Mayotte, on a vraiment l'impression avec les Mahorais d'être les derniers roues du carrosse. On a un nombre d'évacuations sanitaires tout à fait colossal chaque année. Soit vers la métropole, vers Paris, soit vers les Antilles, parfois un peu vers la Guadeloupe, pour tout, mais ne serait-ce qu'il n'y a pas d'assistance médicale à la procréation, donc les gens ils vont ailleurs. Si on a besoin de se faire greffer un rein, il n'y a pas de transplantation rénale ici. Si on a besoin de se faire déboucher les artères parce qu'on a les artères des jambes bouchées, il n'y a pas non plus. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas ici.
Mais des choses dont vous auriez réellement besoin, qui seraient un luxe, je veux dire.
Non, des choses dont on a réellement besoin. Le problème, c'est que si on prend les choses du point de vue du décideur, on nous dit bon, vous êtes mignon, la Guyane, vous êtes 250 000 habitants. Alors je connais pas les chiffres, mais ça correspond à une petite ville de France. Ils disent une petite ville de France avec 250 000 habitants, vous auriez pas tout ce que vous demandez, la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, la médecine vasculaire, etc. Les médecines nucléaires. Sauf que nous, ok, on n'est que 250 000 habitants, sachant que c'est officiellement, probablement qu'on est plutôt 300 000 ou 400 000 avec tout le bassin de population qu'on soigne, et surtout, on est à 8 000 km de la métropole. Je veux dire, ok, quand à Pau, on n'a pas telle spécialité, eh ben on réfère à la plus grande ville d'à côté. Quand on est, je sais pas, à Melun, on n'a pas telle spécialité, on envoie à Paris. Nous, on envoie à qui ? Alors on nous dit, oui, mais pour avoir un service de neurochirurgie, il faut avoir un nombre minimum de patients et une population minimale. Oui, mais on est dans un contexte particulier. Là, il se trouve que la Guyane, qui est un territoire d'Amérique du Sud, est restée en Amérique du Sud et est restée française. Eh ben oui, il faut assumer, il y a certaines normes qu'il faut adapter. Donc je sais pas, si pour avoir un neurochirurgien, il faut 500 000 habitants en France, eh ben il va falloir revoir à la baisse les recommandations ici, parce qu'on a besoin d'un neurochirurgien, on a besoin d'un chirurgien vasculaire, on a besoin d'une coronarographie interventionnelle.
Donc en fait, vous disiez que ici la médecine a 50 ans de retard, mais c'est aussi parce que la France ne s'est pas adaptée au contexte guyanais concernant l'hôpital ici.
On a l'impression que la France, elle s'en fout un peu de la Guyane, et elle s'en fout un peu de la santé en Guyane. Que s'il y a les fusées qui décollent, ça, ils sont contents. Clairement, pour le prestige de la France, c'est très bien, mais la santé des Guyanais, bon...
Si le centre hospitalier André Rosemont de Cayenne fait beaucoup parler de lui en raison de ses nombreux problèmes que l'on vient d'évoquer, eh bien il s'y passe aussi, Gore, de belles choses.
Tout à fait, le nouveau pôle femmes-enfants en est l'illustration. Créé il y a 4 ans, ce pôle regroupe une nouvelle maternité et un service pédiatrie. 70 sages-femmes travaillent dans de bien meilleures conditions que les urgentistes par exemple. Mais la maternité est un peu victime de son succès, comme me disait une sage-femme. Lorsque le pôle femmes-enfants a été créé il y a 4 ans, la maternité enregistrait 2600 naissances par an pour une capacité de 3000 naissances. Mais aujourd'hui, on en est déjà à 4300 naissances par an.
Igor Strauss, on vous retrouve dans cette maternité en compagnie de Blandine Poirel, cadre sage-femme. Et la visite se termine dans le lactarium de l'hôpital. Lui aussi, il est flambant neuf.
Ça, c'est notre service d'accueil urgence. Donc, on a... 3 points d'accueil obstétrique, 2 salles d'échographie et 1 point d'accueil gynéco.
Et alors justement, quelle est la particularité de la prise en charge ici en Guyane ? Parce qu'on est sur un vaste territoire avec des moyens de communication et des moyens de transport assez limités. Du coup, qu'est-ce que ça implique ?
Amanda, une sage-femme.
Bonjour. Donc, est-ce que ça complique votre travail ?
Ça complique pas, puisque c'est inclus dans notre travail. C'est des dimensions qu'on prend, des dimensions différentes par rapport à la métropole dans nos prises en charge. Il y a la pathologie des femmes enceintes normales, associée à la pathologie caribéenne, amazonienne, et à nos particularités de territoire avec les patientes à bas risque qui sont donc éloignées des centres des maternités, qui sont suivies dans les centres délocalisés de prévention et de soins. Et comme elles n'ont pas le droit, d'après la législation, d'accoucher sur place puisqu'il n'y a pas la structure nécessaire, elles sont transférées sur Cayenne à 37 semaines, c'est-à-dire à 8 mois de grossesse, en prévision de leur accouchement. Mais comme il n'y a pas de structure prévue d'hébergement à Cayenne, donc elles sont dans nos lits d'hôpital, dans notre voilà, ce sont donc des accouchements, enfin des grossesses à bas risque, un accouchement normal qui normalement s'il y avait une maternité près de chez elle aurait accouché chez elle.
Voilà. Donc en fait elle bloque des lits indépendamment de leur volonté, juste pour éviter les risques quoi.
Elles bloquent des lits, oui, puisqu'elles ne sont, elles sont pas malades. Elles n'ont rien à faire dans des lits d'hôpitaux. Après, l'hôpital a été dimensionné pour faire 3000 accouchements. Donc, quand on a déménagé, elles étaient tout à fait incluses dans les lits. Maintenant, avec notre augmentation d'activité, oui, on a un petit souci. C'est qu'il fait quand même 12 lits tous les jours qui sont donc dédiés aux patientes AMH. Et c'est vrai que voilà, si elles avaient un autre moyen d'hébergement, ça ferait 12 lits de plus pour nos accoucher.
Oui. Et alors, juste, vous me parliez tout à l'heure justement de certaines pathologies caribéennes. Mmh, De quoi s'agit-il très concrètement?
Les populations créoles ont plus tendance à faire de l'hypertension et du diabète. Elles font beaucoup plus d'enfants. Donc elles commencent jeunes, elles finissent tard. Donc ça, c'est la population caribéenne. Avec la particularité amazonienne, ben, vous avez entendu parler toutes nos vagues d'épidémies, le palu, le zika, le chikungunya, voilà. Donc plus on est quand même en zone endémie HIV, le sida, et en zone endémie d'hépatite B, qui est aussi un facteur à prendre en compte. Et puis on a quand même une vague migratoire depuis 3 ans. Avec une population venant d'Haïti en grande précarité, donc avec toutes les pathologies liées à la précarité. Elles sont anémiées, malnutries, début de grossesse de suivi tardif, grossesse mal suivie, pathologies déjà bien avancées quand elles arrivent. Voilà.
Vous avez un large spectre de toutes les pathologies possibles et imaginables.
Ah, les sages-femmes qui viennent ici apprennent à travailler vite, bien et apprennent beaucoup de choses. Elles voient des choses ici qu'elles voient nulle part ailleurs, qu'elles ne verront nulle part ailleurs. Ouais. C'est ici pour quelqu'un de curieux, c'est extraordinaire.
Et les principales complications, c'est quoi ici du coup lors des accouchements?
L'hémorragie du postpartum, qui est due au fait qu'elles sont beaucoup d'enfants, des enfants rapprochés. Elles sont anémiées, donc elles commencent avec un taux d'hémoglobine qui est assez bas. Et puis les complications de l'hypertension, ce qu'on appelle la pré-éclampsie, qui est une complication assez fréquente en Guyane, avec la particularité qu'elle dégrade très vite. Donc, nos sages-femmes apprennent à détecter très rapidement le moindre signe de gravité. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de prématurité induite liée donc à la prise en charge des pré-éclampsies. C'est plutôt ça nos difficultés. Ouais.
Bonjour, je suis Luce Grelet, je suis l'infirmière qui s'occupe du lactarium et de la biberonnerie à l'hôpital de Cayenne.
Donc on y va, on vous
ouais,
suit.
Je vais vous montrer.
Je vous remercie infiniment
pas de
soucis, en tout cas.
Je vous
merci
accompagne.
Beaucoup. Alors, on se retrouve dans un couloir.
C'est ça, un grand couloir. Donc là, c'est tout ce qui était obstétrical de ce côté-là, et là, c'est tout ce qui est les bébés prématurés, tout ça. Et là, du coup, c'est le couloir de la biberonnerie et du lactarium.
Alors, qu'est-ce qu'un lactarium?
Donc, un lactarium, c'est tout le traitement du lait maternel. Mmh. C'est surtout pour les prématurés.
D'accord.
C'est plutôt ciblé pour les bébés qui sont nés en dessous de 32 semaines d'aménorrhée. Les bébés qui sont nés en dessous de 32 semaines d'aménorrhée ne peuvent pas recevoir le lait de leur mère cru. On est obligé de le traiter, donc de le pasteuriser.
Et pourquoi ils ne peuvent pas le recevoir cru?
C'est pour des questions bactériologiques. Donc voilà, eux, ils ont besoin que le lait soit quand même très sécurisé. Et c'est pour ça qu'on le pasteurise, pour éliminer la plupart des bactéries qu'il y a à l'intérieur.
Il y a beaucoup de prématurés, justement, c'est fréquent ici en Guyane.
Oui, on a un gros taux de prématurés en Guyane.
Donc avoir un lactarium, c'était quelque chose d'utile, quoi.
C'est indispensable. Mmh. Donc on est le premier lactarium des Dom-Tom. Et c'est indispensable parce que sinon, on est obligé d'importer le lait d'une banque de lait en métropole, de Bordeaux, qui nous envoie du lait.
Enfin, Bordeaux, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait un peu loin.
C'est ça, et c'est très cher. Donc on fait le lait d'une maman pour son bébé. Donc ce lait-là, il est spécifique pour cet enfant-là. Alors que le lait d'une donneuse, qui est très bien, mais il n'est pas spécifique pour cet enfant-là.
Ah oui,
donc il est plus adapté.
Alors, je vous suis, on visite, comment ça se passe?
Donc là, on va rentrer dans une salle qui est protégée. Donc l'environnement est maîtrisé, donc on doit s'habiller.
Moi, je suis déjà habillé.
On a tous changé, parce que ça a été sale, ça a été sali, donc on va se remettre en propre.
Je remettrai une petite blouse. Ah oui, donc on a un sas.
Donc il y a un sas. Donc tout le circuit du lait, c'est du côté. Voilà, il y a tout un circuit. C'est que de la marche en avant, on ne revient pas en arrière.
D'accord.
Donc là, on rentre dans l'environnement protégé. Donc dans cette même salle, il y a l'activité biberonnerie et l'activité lactarium.
La biberonnerie, c'est donc les biberons pour les bébés, tout simplement.
C'est ça. Donc tous les jours, 7 jours sur 7, il y a les biberons qui sont préparés pour les services de réanimation, soins intensifs, néonates et les nourrissons. Donc que ça soit du lait artificiel, du lait de maman ou du lait lyophilisé de dons de donneuses.
Et donc il y a aussi du lait artificiel.
Oui. Sur une maman...
Je croyais qu'il fallait que ça soit le lait de la maman pour son enfant.
Alors, ça, c'est surtout pour les bébés en dessous de 32 semaines d'aménorrhée. Après, pour les nourrissons ou pour les bébés plus à terme qui n'ont pas ces besoins spécifiques, il y a des laits artificiels qui sont aussi adaptés pour eux.
Alors là, en gros, des congélateurs, hein, tout simplement.
C'est ça. Donc là, on est vraiment dans la partie lactarium. Donc ça, c'est le pasteurisateur. Donc il sert à chauffer le lait des mamans pendant 30 minutes à 62 degrés. C'est les normes qui sont fixées.
Donc chaque maman doit tirer son lait au préalable, évidemment.
Donc c'est ça.
Ça, c'est contraignant.
C'est contraignant, mais ça leur permet quand même de reprendre un rôle vraiment maternel. Quand on accouche d'un bébé, d'un grand prématuré, l'environnement médical est très important. La place de la maman, quand même, est assez limitée. Donc le fait de pouvoir tirer son lait, ça lui rend quand même une place très importante parce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire pour son bébé. Donc oui, une fois que tous les laits sont récupérés dans les services par les auxiliaires de puériculture, nous, ils sont traités ici. Il y a tout un dossier quand même de donneuses qui est réalisé avec les différentes sérologies. Une fois que ce dossier est validé médicalement, on peut après pasteuriser le lait pour pouvoir le rendre après au bébé. Donc oui, il y a tout un circuit, un cheminement dans différents congélateurs. Chaque congélateur a sa spécificité.
À des degrés différents.
Alors, non, c'est pas une question de température, c'est vraiment une question de dossier validé ou pas, de lait pasteurisé ou de lait cru, pour qu'il n'y ait pas de mélange, pas de confusion, pour qu'une fois en bout de chaîne, on ne puisse pas délivrer du lait non conforme à un bébé.
Bon, merci pour cette visite.
Mais de rien.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes en Guyane pour parler de l'accès aux soins dans ce département français situé en pleine Amérique latine. Une situation géographique particulière qui rend la pratique de la médecine bien différente de ce que l'on peut voir en métropole. Le docteur Loïc Eppelboin est médecin infectiologue et chercheur en maladies infectieuses et tropicales dans ce centre hospitalier André Rosemont de Cayenne.
On a toute la maladie tropicale moins connue ailleurs. On va avoir la leptospirose, la fièvre Q, qui est une maladie extrêmement fréquente ici, une infection bactérienne, qui est une maladie qui, en métropole, se transmet via les ovins et les bovins, donc c'est une maladie professionnelle. Et ici, en Guyane, c'est une maladie qui est probablement transmise via la faune sauvage et qui touche énormément de monde. On a l'incidence la plus élevée au monde. Ça donne des infections pulmonaires parfois très cognées. Voilà, on n'a pas encore tout résolu les mystères de cette maladie, mais elle est extrêmement fréquente ici. Voilà, on a aussi certaines maladies particulières. On a l'histoplasmose, qui est une maladie liée à un champignon et qui est très fréquente ici chez les patients atteints du VIH. C'est la première maladie révélant le VIH au stade SIDA ici en Guyane, probablement aussi dans le reste de l'Amérique du Sud. Mais comme on a un contexte particulier ici en Guyane d'être en plein milieu de l'Amérique du Sud, mais avec des ressources françaises et européennes pour le diagnostic et pour le traitement, on découvre des maladies ici que les pays aux alentours découvrent parfois plus tard. Voilà, donc on est vraiment dans un contexte très particulier.
C'est un service important. Important de l'hôpital ici ou pas?
Oui, alors en termes de taille, on n'est pas très important, on n'est pas le plus gros service. On a 20 lits d'hospitalisation, une consultation qui tourne bien avec la consultation post-urgence, des consultations infectieuses tout venant. On a la consultation du suivi des patients chroniques atteints de VIH, d'hépatite B, d'hépatite C, de fièvre Q, d'infection osteoarticulaire, etc. On a aussi une consultation qui est dédiée au risque rabique, donc les gens qui sont fait mordre et donc avec un risque d'attraper la rage. On est sur un continent où il y a beaucoup de rage, même si en Guyane ça n'a pas beaucoup été décrit, mais il y a ce risque. Et puis on a aussi une équipe mobile d'infectiologie qui va donner des avis en infectiologie dans tout l'hôpital aux collègues d'orthopédie, de cardiologie, que sais-je. C'est compliqué, mais c'est ce qui fait la richesse de notre travail aujourd'hui. Moi, en consultation, dans une matinée, je vais parler portugais, espagnol, anglais. Je vais devoir faire appel à des collègues pour parler le créole, mais le créole d'Haïti, parfois le créole guyanais. Ça, c'est moins souvent, les Guyanais ont pas besoin vraiment de parler créole. Ils parlent très bien français. On a aussi le fameux taki-taki, donc qu'on appelle aussi le bushitrango, c'est la langue des gens du fleuve Maroni. On doit parfois faire appel à des gens pour nous aider avec des Amérindiens. Non, au contraire, c'est une vraie richesse. Certes, présente une difficulté, mais c'est une vraie richesse pour nous. C'est pour ça qu'on est là. C'est qu'on a des populations extrêmement variées. En plus, on a des populations qui sont hyper sympas et qui ont un rapport aux médecins qui c'est moins détérioré qu'en métropole. On est moins des prestataires de services qu'en métropole. Ici, les gens, ils sont vraiment reconnaissants. Mais il y a souvent une blague, hein. On a des patients, notamment les patients les plus croyants, ils nous disent souvent, tu sais, docteur, il y a Dieu et puis toi, t'es juste en dessous. Donc, on fait des blagues en disant, ah bon, moi, je suis pas au-dessus, mais. Donc, non, on a des rapports. Les patients ici, ils sont super sympas, quelles que soient les communautés. C'est pour ça que c'est un vrai plaisir de bosser ici.
Igor Strauss, en Guyane, le VIH est également une préoccupation depuis plusieurs années. Et là encore, le contexte guyanais donne une dimension particulière à la prise en charge de la maladie.
Oui, le problème, c'est qu'en Guyane, les structures de soins sont concentrées sur le littoral. Dans les zones isolées, comme le long des deux fleuves, le Maroni et l'Oyapock, les conditions sont plus difficiles. De plus, la grande précarité, le manque d'éducation et d'accès à l'information entraînent un retard de dépistage, de diagnostic et de prise en charge. Mais là aussi, des programmes innovants voient le jour. Le docteur Émilie Mosnier est infectiologue et chercheuse dans le domaine du VIH au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne.
En termes de prévalence, de manière générale, en Guyane, on a une épidémie qui est dite généralisée mais hétérogène, avec des sous-groupes qui sont quand même plus à risque. Ce qu'on peut voir en zone isolée, c'est que plus les personnes sont précaires et plus la prévalence va être élevée, ce qui est visible sur le reste de la Guyane, mais on a une épidémie qui est arrivée de façon un peu retardée, mais qui est assez importante et assez dynamique là dans ces dernières années.
Comment vous l'expliquez ça ?
Comme en Afrique, en fait, où on a eu une épidémie qui est partie des zones urbaines pour aller progressivement sur les espaces ruraux, au travers des camionneurs, au travers de patients qu'on a appelés les speed spreaders, c'est-à-dire des gens qui vont transmettre ou participer. On a un effet pirogué, on a un effet, en fait, qui est allé des zones urbaines vers la périphérie, donc une arrivée relativement un petit peu retardée de l'épidémie, mais du fait aussi d'un manque de structures de soins, de capacité de dépistage, de prise en charge du VIH, de précarité et d'isolement des populations, donc un possible retard aussi de prise en charge. On est en train d'essayer de travailler dessus, hein. On a mis en place des consultations délocalisées, on peut maintenant prendre en charge les patients vivant avec le VIH dans des zones extrêmement isolées. À l'heure actuelle, à Maripasoula, on prend en charge, on donne des traitements antirétroviraux et on suit des patients, comme sur l'Oyapock. On a aussi un effet état frontalier. Donc, sur toute la frontière avec le Maroni, on a une possibilité d'obtenir un traitement antirétroviral au Suriname que à Paramaribo, à la capitale. Et côté Brésil, le traitement n'est disponible qu'à 12 heures de piste, c'est-à-dire à Macapa. L'ensemble de ces... de ce contexte géographique rend le compte en fait des difficultés et du retard de prise en charge. On a développé au travers du projet Oyapock Opération Santé un projet transfrontalier avec le Brésil. Donc le but, c'est de travailler en optimisation de moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'antirétroviraux disponibles à la frontière avec le Brésil. On en a des disponibles côté français. Et on travaille ensemble à mettre en place, en fait, une formation de médecins, en fait, côté brésilien, capables et en charge de prendre en charge les patients vivant avec le VIH, de faire amener, en fait, les antirétroviraux de Macapa à la frontière Oyapock pour qu'ils puissent bénéficier d'antirétroviraux. Et on a toute une structure qui marche déjà avec une infirmière gestionnaire de cas qui va, au cas par cas, en fait, travailler pour chaque patient. Un patient va pouvoir bénéficier des antirétroviraux côté français, mais de la prise en charge psychiatrique côté ou addicto côté brésilien. Donc on va être dans une optimisation et une coopération. Il ne s'agit pas là de dire ça se fait que d'un côté ou que de l'autre. C'est d'arriver à, dans ces zones justement isolées, ces zones un peu frontières, arriver à essayer d'optimiser un petit peu les ressources. On sait que le VIH, dans le monde, en Afrique, ailleurs, je ne parle pas de la métropole, mais nous, en Guyane, on est dans un contexte un peu compliqué, on est dans un contexte français, mais finalement, de pays en voie de développement, autant la prise en charge en zone urbaine va être correcte, efficace, parfaite, autant plus on va vers les périphéries, plus on va avoir un manque de moyens, etc. Et donc, en Guyane, on est dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on expérimente des choses comme la prise en charge du VIH en zone isolée, l'adaptation des outils de suivi, la coopération transfrontalière qui pourrait être potentiellement exportable ailleurs dans d'autres zones en voie de développement. Parce que je pense que ces problématiques de frontières, de mobilité, de qu'est-ce qui se passe au niveau des problématiques de santé chez les migrants ou dans ces zones un petit peu difficiles, c'est des questions qu'on se pose aussi à l'échelle européenne. Donc, travailler sur des dispositifs innovants de prise en charge, c'est des questions qui vont apporter des réponses également à d'autres endroits dans le monde.
Igor Strauss, quelle est l'offre de soins en Guyane pour comparer à un territoire un petit peu plus petit que le Portugal, mais très enclavé avec des zones difficiles d'accès?
Eh bien, le centre hospitalier André Rosemont de Cayenne a déployé sur la quasi-totalité du territoire des CDPS, des centres délocalisés de prévention et de soins. Il y en a 17 en tout en Guyane, mais il y a 25 centres de consultation. Alors, un petit centre de consultation, c'est tout simplement un infirmier avec un médecin qui passe de temps à autre. Un CDPS est en revanche beaucoup plus important. Celui de Marie Passoula, où nous irons tout à l'heure, est par exemple comme un petit hôpital. Les CDPS sont essentiels car ils sont en première ligne dans l'accès aux soins. Les médecins doivent traiter toutes les maladies tropicales, le paludisme, la leishmaniose ou encore la lèpre, mais aussi des pathologies propres à la Guyane. Le docteur Paul Brousse est le chef de pôle des centres délocalisés de prévention et de soins.
Le mercure existe dans le sol depuis des millions et des millions d'années en Guyane. Donc, l'orpaillage intervient de deux façons. D'ailleurs, l'orpaillage légal y a contribué très largement jusqu'en 2006, puisque le mercure était utilisé par tout le monde. Donc là, il n'y a pas photo. Ce que fait l'orpaillage illégal, c'est d'amener du mercure métallique pour continuer à faire l'amalgame de l'or, et donc ce rejet contribue à peu près à 5% de l'enrichissement du sol en mercure. Mais c'est pas que ça. Le problème, c'est la déforestation et l'érosion des sols due aux pratiques de l'orpaillage. Et à ce moment-là, c'est la remise en suspension du mercure qui est là dans le sol depuis, je vous dis, des millions d'années, qui fait que ça entraîne une érosion des sols, et en zone humide et dans les fleuves, dans les berges, etc. Ce mercure qui est inoffensif dans le sol est transformé par les micro-organismes en méthylmercure, et ils deviennent donc bioassimilables, ils intègrent la chaîne alimentaire à ce moment-là. Donc ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il faut lutter contre l'orpaillage illégal, c'est une catastrophique à des tas de points de vue, mais ça ne réglera pas le problème de l'exposition au mercure. La preuve en est, c'est que dans le village et dans la région de Troissot, où il n'y a jamais eu d'orpaillage illégal, les populations sont plus exposées que celles de Camopi. Où
ça, c'est sur le fleuve Oyapok, l'autre côté du Maroni, la frontière brésilienne.
Exactement. Donc, le problème est celui de la ration alimentaire en poissons qui sont riches en mercure, et ce qui fait que sur le haut Maroni, on ait des taux beaucoup plus élevés qu'ailleurs en Guyane, c'est parce que ça conjugue deux choses. Un mode de vie traditionnel, comme on peut le voir à Troissot, plus les activités de l'orpaillage qui sont assez massifs sur le haut Maroni.
Et concernant le plomb,
là, c'est la Guyane entière est concernée par l'exposition au saturnisme. Ce problème de saturnisme a été identifié depuis 2011, et maintenant nous avons suffisamment de données pour montrer que c'est un véritable sujet de santé publique, car les taux sont, dans les communes de l'intérieur, au moins 400 fois supérieur à ce qui existe en métropole. Et dans certains lieux, comme à Troissot, par exemple, j'ai pu montrer moi-même, il l'était 2600 fois. Donc ça ne veut plus rien dire à ce moment-là. Pour rester plus simple, c'est 100% des gens sont atteints de saturnisme. Voilà. Sur les sources de cette exposition, elles sont multiples. Elles sont par voie alimentaire, ça c'est sûr. Donc il y a plusieurs pistes qui sont inventoriées. Une des grandes hypothèses, c'est le manioc, mais qui n'explique pas tout. Il y a d'autres hypothèses, bien sûr. Une qui me paraît, en tout cas, devoir être creusée un peu plus, c'est celle des produits de la chasse, voire de la pêche, mais surtout de la chasse. Dans le gibier, la teneur en plomb peut être excessivement élevée, comme on le voit d'ailleurs en métropole, où des préconisations récentes ont montré qu'il ne fallait plus manger plus de 3 fois de gibier par an. C'est les préconisations qui sont sorties en mars 2018. Voilà, donc ici, ils en mangent plusieurs fois par semaine. Donc, le gibier en lui-même. Alors, pourquoi ? Ben, pour essentiellement, et là, le lien est directement fait avec les pratiques de chasse qui se font plus à l'arc depuis les années 70 seulement, mais avec des cartouches au plomb. Et donc, nous avons une contamination des sols par le plomb. Donc là, il y a des alternatives réelles, puisqu'on sait qu'il existe des cartouches sans plomb, avec de l'acier ou d'autres... Voilà.
Au niveau du suicide des Amérindiens, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un vrai problème de santé publique?
Nous avons eu des missions parlementaires, il y a plein de gens qui sont venus s'inquiéter de cette problématique qui remonte à des décennies quand même, en Guyane. Alors, s'il fallait rester un peu simple et synthétique, on peut dire que les peuples autochtones en général, et pas qu'en Guyane, ont souvent une incidence du suicide qui est plus importante que dans les autres populations. On voit ça en Amérique du Nord, dans les réserves amérindiennes, etc. Pourquoi ? Parce que les conditions sont réunies. On appelle ça les conditions de la crise suicidaire. C'est quoi ? Bien, c'est le mal-être de ces populations, c'est l'acculturation, c'est l'alcool qui joue quand même une grande place, voire les produits toxiques qui sont arrivés. L'absence souvent de travail, c'est les violences intrafamiliales qui sont de longue date, la proximité au premier degré, voire au deuxième degré, des gens qui se sont déjà suicidés, dont il y a des effets qui peuvent être de mimétisme à un moment donné, puisqu'on voit que les suicides souvent arrivent en grappe, en petites épidémies. Alors tout ça a été... théorisé déjà, on sait que ça existe, ces problèmes de suicide en grappe. Alors ça concerne aussi essentiellement des tranches jeunes. Les derniers, c'est 11 ans et demi quand même, la tentative de suicide
très jeune.
À 15 jours. Oui, mais on a eu 12 ans avec un décès l'année dernière, c'est catastrophique. Mais en ce qui concerne les populations amérindiennes aussi, ils cumulent beaucoup de choses. On a vu l'exposition au mercure, l'exposition au plomb, puisque c'est là que ça prédomine aussi dans ces populations-là. Les expositions à l'alcool, l'alcoolisme fœtal et pas une idée de l'esprit. Ensuite, il y a le système scolaire qui est peut-être pas très adapté non plus. Autre chose, et c'est ça qu'on a, j'ai appris au bout de pas mal de temps ici, c'est ça suffit pas de dire ça. Souvent, ces populations... On a des cultures différentes. Ça va bien au-delà des cultures différentes. Ils n'ont pas une représentation du monde différente d'une autre. Ils sont dans un monde différent. Et je vous l'illustre d'un exemple. Que ce soit, y compris des jeunes, ceux qui remontent, ceux qui ne sont pas décédés bien sûr, ceux qui sont passés à l'acte, très souvent, dans les consultations, ceux qui remontent, c'est que au moment des passages à l'acte, c'est pas eux. Les esprits étaient là, on avait leur dire, c'était leurs proches qu'il fallait, etc. Et ça, c'est pas une pathologie psychiatrique, on n'est pas dans la dissociation ou la schizophrénie. On est dans ce monde magico-religieux avec lequel ils existent, on appelle l'animisme au sens large, et ils font avec ça. Ça, c'est leur vie, ça, c'est leur monde. Et donc, il y a des choses qui nous échappent. Complètement, voilà. Alors, c'est très compliqué, car ce que l'on observe, c'est que c'est pas la seule génération. Quand on dit les jeunes depuis plusieurs décennies, ça veut dire que c'est des jeunes qui ont été déjà parents et qui ont vécu le déracinement, qui ont vécu, pour certains, les hommes indiens, ils nous en parlent encore, les familles d'accueil, qui ont vécu des tas de choses. Et donc, c'est pas qu'une génération, c'est deux, voire trois générations qui ont fait les frais de tout ça.
Igor Strauss, vous nous emmenez à présent à Maripasoula, c'est au bord du fleuve Maroni, au sud-ouest de la Guyane, une commune très enclavée où vivent de nombreux Amérindiens et des Bushinengue, des descendants d'esclaves.
Maripasoula est au bord du fleuve Maroni qui marque la frontière avec le Suriname voisin. Et pour se rendre à Maripasoula, il faut prendre l'avion de Cayenne, mais c'est très cher, ou passer par le fleuve et c'est long. Cet enclavement complique donc les choses pour les médecins du centre délocalisé de prévention et de soins. Le docteur Édouard Le Goff est cadre de santé au CDPS de Maripasoula.
Attention, madame.
Donc voilà, là on est au centre de santé de Maripasoula, qui est le centre névralgique de tous les centres de santé sur le Haut-Maroni, où on a une file active donc, de patients qui reviennent au moins une fois dans l'année de plus de 6 000 patients, pour un total de 30 000 dossiers. sur une population estimée à Maripasoula autour de 10 000. Donc avec aussi un fort tropisme pour prendre en charge la population qui vient de la rive surinamaise, étant donné qu'en face de Maripasoula, il n'y a aucune structure de santé. La seule structure de santé surinamaise, c'est une malaria clinique, c'est juste des tests de dépistage sur le palu, mais il n'y a rien d'autre. Maintenant, on est sur des choses aussi plus globales, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de santé publique. C'est réducteur de voir le côté français et le côté surinamais. Les gens...
Les gens naviguent entre les deux.
Les gens naviguent entre les deux, et c'est encore plus prégnant pour la population Wayana,
les Amérindiens
et aussi pour la population noir-marron à Loukou, ici à Maripasoula, qui sont sur un bassin de vie qu'est le Maroni et qui peuvent être nés côté Suriname mais avoir toute leur vie en France. Donc c'est des problèmes de papier et d'accès aux soins qui sont quand même beaucoup plus compliqués à gérer que dans n'importe quelle structure de soins. Mais c'est tout le défi. On fait de la santé publique, on accueille toutes les urgences, on ne regarde pas les droits sécu, mais on essaye d'autonomiser les personnes un maximum pour qu'elles fassent des droits sécu et pour aller vers un système plus pérenne pour eux, ou s'ils ont besoin d'une consultation spécialiste à Cayenne, ils aient des droits sécu, ou s'il y a besoin de faire des examens, on peut faire jouer une sécu dessus, pour pas que ce soit qu'à budget perdu.
Et... au niveau de l'accès à la sécu, justement, sur les populations françaises, hein, qu'elles soient amérindiennes, noir-marron, quel est le pourcentage de cette population qui a réellement ouvert ses droits?
Alors là, c'est en train de bondir. Il y a moins de 5 ans, on était sur à peu près 30% de la population qui était affiliée à la sécurité sociale, même s'ils avaient la possibilité d'ouvrir des droits sécu. Là, depuis un an et demi, on a l'arrivée d'une agence, d'une antenne de la Caisse Générale de Sécurité Sociale qui permet de remplir des dossiers ici directement à Maripasoula pour essayer d'offrir de l'accès aux soins et donc de l'ouverture de droits au plus grand nombre possible.
On continue le petit tour. Ouais. Donc là, il y a beaucoup de monde hein, quand même.
Là, c'est une journée calme, donc on a des journées, nous, c'est assez fluctuant. Donc on a il y a les trois médecins généralistes qui consultent tous les matins. On gère aussi les prises de sang tous les matins. Donc on a la chance à Maripasoula d'avoir l'avion qui fait l'aller-retour de Cayenne avec un vol qui part le matin. Et on peut mettre des prises de sang tous les matins dans cet avion, qui sont à analyser au laboratoire de l'hôpital de Cayenne. Et ça permet d'avoir une couverture en bilan sanguin qui est quand même... appréciable. Là, l'année dernière, on a lancé de la biologie délocalisée. Par exemple, on peut faire certains bilans sanguins, on peut les techniquer directement sur place sans avoir besoin de les envoyer à Cayenne. Et d'avoir du coup des réponses et des temps d'analyse qui sont ultra courts par rapport à attendre que le tube soit envoyé à Cayenne, qu'il soit analysé, plus que le résultat nous revienne. Là, il y a vraiment des choses innovantes qui sont faites à ce niveau-là.
On continue ?
Ouais.
C'est quand même assez moderne, il est tout récent le centre.
Il a moins de 10 ans, donc c'est un centre qui est bien entretenu.
Bien équipé, vous pouvez travailler convenablement.
On a pas mal de matériel. Là, l'année dernière, on a fait des travaux là, pour faire un cabinet d'ophtalmologie et un cabinet de soins dentaires avec une stérilisation indépendante pour permettre d'augmenter notre attractivité pour faire venir des ophtalmos et faire venir des dentistes. C'est partout pareil, que ce soit en métropole, que ce soit en Outre-mer. Les ophtalmos, c'est très compliqué, il n'y en a pas, il y en a déjà peu en métropole et c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Alors pour Maripasoula, c'est d'autant plus compliqué. Donc le parti a été pris de se rendre plus attractif en disant voilà, s'il y a des professionnels qui veulent venir, qui sont motivés pour venir faire du soin en site isolé, entre guillemets, comme Maripasoula, on a déjà un laboratoire et du matériel qui est là, prêt à être utilisé. C'est du clé en main. Donc, et puis on est en train, avant on travaillait qu'avec des praticiens hospitaliers, mais là il y a aussi des nouvelles dispositions au niveau de la loi qui nous permettent aussi de se mettre en contrat, entre guillemets, avec des libéraux qui viennent faire des vacations ici pour le compte de l'hôpital sur les centres de santé. Et toujours en restant dans la gratuité des soins qui est la règle sur les centres de santé. Vu le taux d'affiliation sécu, on ne peut pas se permettre de faire une tarification à l'acte et c'est pas du tout le parti qui est pris dans le système de santé pour les centres de santé. Voilà, là il y a deux lits d'accueil des urgences vitales.
Avec un petit bébé.
Avec un petit bébé, bah voilà, qui a été vu hier par l'infirmière en Tecumpata, qui était en poste, qui le trouvait pas forcément inquiétant à la minute, mais qui aurait aimé qu'il soit vu par un médecin, parce qu'il y avait une fièvre qui ne cédait pas depuis 5 jours. Donc voilà, on a fait redescendre la maman et le bébé qui sont venus nous voir ce matin et là qui sont en train d'être vus par la pédiatre et la secrétaire qui est en train de voir tous les papiers si jamais il y a besoin de faire un transfert à l'hôpital de Cayenne. Donc, c'est des choses qui sont quand même plutôt bien rodées ça.
Il y a un vrai suivi dans le parcours de soins.
Il y a un vrai suivi.
Il y a une belle chaîne.
Il y a une belle chaîne avec l'hôpital de Cayenne, voilà, qui est des fois compliquée parce que par exemple là... si jamais on a besoin de le faire partir tout de suite, ça implique qu'il y ait de la place dans les avions. Et c'est pas des avions de l'hôpital, hein, c'est une société privée qui fait ça. Et nous, on n'a pas de partenariat forcément privilégié avec eux. Hein.
C'est Air Guyane.
C'est Air Guyane.
Donc, je l'ai pris, l'avion, il est tout petit, c'est à peine 15 places.
Voilà, c'est ça. Donc s'il n'y a pas de place, des fois, il faut un peu prendre son mal en patience ou trouver des solutions alternatives. C'est l'adaptation permanente et tout le jeu des centres de santé. C'est le nerf de la guerre, hein, la logistique sur les centres de santé, dans l'ensemble des centres de santé, c'est vraiment ça qui permet de faire tourner les choses.
Et est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent, des services, des besoins particuliers ?
Ah bah, et sur plein de domaines de santé, il y aurait des choses à faire évoluer, mais qui arrivent petit à petit. Hein. Par exemple, la radiologie, nous, on n'a pas d'offre de radiologie. Clairement, pour une fracture qui restera une suspicion de fracture jusqu'à ce que preuve de la fracture soit faite, les gens vont être transférés à Cayenne où il y a le plateau technique de radiologie pour faire la radio. Or parfois c'est très bien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose à opérer tout de suite, mais parfois pour une fracture simple c'est un peu dommage que les personnes aient fait l'aller-retour à Cayenne alors qu'on aurait pu le faire ici, mais ça c'est dans des projets de développement qui dit radiologie, dit radioprotection, dit plein de choses, donc c'est des projets qui viennent les uns après les autres. On a eu la biologie délocalisée, il y aura la radiologie bientôt. Voilà, c'est des choses qui sont réfléchies.
Ah, c'est un projet qui est en cours.
Ah, c'est un projet qui est en cours, mais qui demande de l'investissement en termes de locaux, en termes de formation du personnel. Et c'est des choses qui sont à l'étude et qui seront déployées dans les années à venir, très certainement.
On retourne au CHAR, le centre hospitalier André Rosemont de Cayenne, qui développe aussi la recherche, pour y retrouver le docteur Loïc Eppelboin, médecin infectiologue et chercheur en maladies infectieuses et tropicales.
On a la chance d'être devenu un pôle extrêmement dynamique au niveau de la recherche en maladies infectieuses et tropicales. On est de plus en plus visible, on parle beaucoup dans les congrès, il y a beaucoup de publications qui sortent sur des pathologies pas très connues, parce qu'on est en Amérique du Sud, amazonienne, avec des pays voisins, l'état de la Mapa au Brésil, le Suriname, le Guyana, qui n'ont pas tellement les moyens d'investir beaucoup dans la recherche et dans la publication. On a des moyens techniques, microbiologiques, épidémiologiques pour faire cette recherche. Donc non, on a vraiment un pôle d'excellence en termes de recherche sur la médecine tropicale ici. Et c'est vrai qu'on est devenu assez visible ces dernières années au niveau de nos collègues outre-Atlantique. Ce qui fait que maintenant, il y a tout un tas de jeunes, notamment en maladies infectieuses, qui ont bien compris que la Guyane, c'était un passage obligé pour se spécialiser en médecine tropicale maintenant, ce qui fait qu'on a un afflux de demandes en permanence au niveau du service de maladies infectieuses, mais aussi au niveau des centres de santé. C'est un stage qui est extrêmement enrichissant pour les internes, le fait d'aller faire 6 mois dans les centres de santé isolés. Et puis, les chercheurs du centre d'investigation clinique ont monté un projet fou et qui maintenant est en train de se concrétiser progressivement. C'est la création d'un bâtiment de recherche qui va être développé à côté de l'hôpital de Cayenne. Et l'idée de ce bâtiment de recherche, c'est développer derrière un cours de médecine tropicale comme il en existe. Il y a la London School, il y a le cours de médecine tropicale d'Anvers, il y a aussi le Gorgas Course qui se trouve au Pérou. Et l'idée, c'est de créer un endroit où les gens ils vont venir, on va leur faire des cours théoriques sur les maladies infectieuses, la médecine tropicale. Ils vont pouvoir venir le matin faire la visite avec les infectiologues en salle. Ils vont pouvoir aller voir les urgences au SAMU, qu'est-ce qui se passe. Ils vont pouvoir accompagner des chercheurs qui vont faire des prélèvements sur des chauves-souris ou des oiseaux en forêt, etc. Donc il va y avoir quelque chose de très très fort qui va pouvoir se construire ici en termes de recherche et d'enseignement en médecine tropicale.
Donc ça pourrait permettre aux médecins de revenir et de repostuler à ces postes qui manquent.
Eh bien clairement, c'est ça l'idée, c'est que plus on redorera le visage de l'hôpital et plus les choses progresseront. Maintenant, il va falloir que au niveau des ministères, au niveau de l'ARS, au niveau de la direction, on ait un petit coup de pouce pour rendre tout ça un peu plus facilement vivable et praticable au quotidien, de façon à ce qu'on puisse exercer dans des bonnes conditions pour nous et puis surtout pour les patients.
L'accès aux soins en Guyane, c'était un reportage signé Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu. Lundi, dans Priorité Santé, vous pourrez réentendre notre émission intitulée « Déco des bébés, comprendre son tout petit pour bien en prendre soin ». On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.